Alors, dans cet épisode, je vous raconte comment j'ai trouvé mon bateau pour traverser l'Atlantique. Le départ a été le 25 janvier 2024. Je vous raconte les sites sur lesquels j'ai été, je vous raconte les ports où j'ai été, je vous raconte comment j'ai trouvé mon bateau, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Générique! Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. Alors, ma recherche de bateau, elle a commencé très tôt. En fait, elle a commencé en octobre. Mi-octobre, j'ai été au port de l'Armor Plage pour faire du bateau stop. Donc, j'avais déjà une idée préconçue de ce qu'était le bateau stop. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est le moment. Mi-octobre, je vais sur les pontons et je vais faire du bateau stop. Et c'est ce que j'ai fait. L'Armor Plage. J'y étais en fait le jour où il commençait à faire froid. Il a fait chaud jusqu'au, je sais plus, 15 octobre et le 17, il faisait super froid. J'y étais, il y avait un vent de malade, il y avait une houle de malade et j'avais vraiment aucune connaissance en bateau. J'avais 0,0 idée de ce qu'était le vent, de ce qu'était la houle, de ce qu'était un bateau, un voilier, comment ça marche et tout. Et donc j'arrive un matin, il était peut-être 8 heures du matin, j'arrive sur les pontons. Et je vois un seul gars et je lui dis « Bonjour, je cherche un bateau pour traverser l'Atlantique. » Et il me dit « Ben, il faut pas venir déjà aujourd'hui, il y a personne, t'as vu, il pleut. » Et il me regarde, enfin il comprenait pas qu'il y ait un gars qui puisse être sur les pontons à chercher un bateau avec cette météo, quoi. La météo était catastrophique, évidemment qu'il y aurait personne. Donc j'ai insisté, j'ai été voir deux, trois personnes. J'ai été demandé et tout, j'ai eu la même réponse. J'ai été manger une petite part de pizza dans une boulangerie et j'ai regardé la mer. Il y avait un bateau de la SNSM, donc les secours en mer, qui sortait de la digue de l'Armor, de la digue de Lorient et qui allait en mer. Et là, je vois le bateau qui disparaît en fait dans les vagues. À peine sorti de la digue, il disparaît tellement il y avait des creux énormes. Et en fait, je réalise que j'avais pas géré du tout mon coup et que ma première journée de bateau stop était un fiasco total et qu'il fallait peut-être que je me renseigne un peu sur ce qu'étaient les conditions optimales et tout. Et donc, à peine 1 heure ou 2 heures passées sur les pontons, je décide de faire demi-tour et puis de rentrer là où j'étais hébergé pour réitérer l'expérience plus tard. Et donc plus tard, donc quelques jours après, quand les conditions sont un peu meilleures, je retourne sur les pontons de l'Armor. Et là, il y a beaucoup plus de monde sur les bateaux. Et donc, je vais les voir et je leur parle un peu de mon projet. Je leur dis pas seulement que je veux traverser l'Atlantique, je leur dis que je veux partir faire une sortie en mer à la journée. En fait, l'idée, c'était de me former à la navigation pour faciliter ma recherche de bateau. Parce que quitte à passer la journée entière sur un ponton, autant être sur un bateau qui navigue et puis chercher le matin et puis rechercher le soir quand on revient. Donc c'est ce que je fais et je trouve pas un seul bateau qui veut bien me prendre. Je trouve même un gars qui me dit que il est hors de question que quelqu'un monte sur son bateau, que lui son bateau c'est son bébé et il partait tous les jours je le voyais et il me disait non c'est mort et on discutait peut-être 15-20 minutes par jour, on parlait de son bateau, de navigation et tout, mais au bout de 4-5 jours, il voulait toujours pas que je monte. Je lui insistais pas hein, mais il me disait non désolé aujourd'hui je pars encore tout seul. J'ai appris après que c'était le pire du genre. Tout le monde le détestait. C'était assez unanime que ce gars-là était insupportable. Et lui-même, quand il me parlait, il était trop méprisant. Donc, apparemment, c'est une bonne chose de pas monter avec quelqu'un comme ça. Ça peut dégoûter de la navigation. Et en fait, plus je parlais de mon projet, plus les gens me disaient « Ah ouais, nos connaissances qui partent pour une transat sont déjà parties. » En fait, ils partent pendant l'été. Donc jusqu'à septembre ou mi-octobre maximum, et ils vont se poser aux Canaries parce que le golfe de Gascogne, donc tout le golfe qui est sur la France et l'Espagne à l'ouest, au changement de météo, de température, il devient complètement pas agréable à naviguer, et donc les personnes, donc les couples en général, ou alors les personnes en solo qui veulent faire une transat partent en septembre-octobre, rejoignent les Canaries et attendent que les alizés s'installent. Pour traverser l'Atlantique. Les alizés, c'est le vent qui vient d'Afrique et puis qui va jusque dans le Pacifique. Et c'est un vent assez constant qui s'installe vers octobre-novembre et puis qui souffle pendant des mois et des mois. Et c'est là la grande saison des transats, c'est de octobre à avril, mai, juin. Parce que là, les vents sont vraiment cléments, il n'y a pas de cyclone quand on arrive de l'autre côté, donc dans les Caraïbes. Et donc, c'est vraiment la fenêtre météo à avoir. Donc, je réalise que j'ai raté la fenêtre météo et que j'aurais pas de personnes qui voyagent en solo ou en couple ou en famille parce que tout le monde était à peu près déjà parti pour avoir les bonnes conditions. Donc, je décide de... je vais quand même à Brest essayer. Je vais voir tous les bateaux à Brest. Je fais la même chose et à peu près la même conclusion. Tout le monde est déjà un peu parti. Donc je décide d'aller au port de La Rochelle. Entre-temps, entre la partie Bretagne et la partie où j'arrive à La Rochelle, je tombe sur une annonce sur Facebook, donc sur un groupe qui s'appelle Sailmore, quelque chose comme ça. Et c'est un Polonais qui met un message, il met « Ouais, on va jusqu'aux îles Vierges Britanniques, voilà, Lagoon 46 ». Et contactez-moi, quoi. C'est tout. C'était un message super simple. La destination, l'origine et la durée à peu près. Et voilà. Je le contacte et il me dit, c'est 1000 plus 700 € la traversée. Et c'est deux personnes. Donc ça tombait bien parce que j'avais un ami avec qui on cherchait un bateau ensemble. Et je me dis, bon, bah, c'est nickel. 1000 plus 700, ça fait 850 € par personne pour la nourriture, plus les frais annexes. Je sais pas trop, mais pour contribuer en fait aux frais de bateau, donc la nourriture, les frais de port quand on arrive au port pour pouvoir rester quelques jours dans une ville comme Cascais au Portugal, ça me paraissait très honnête de payer 850 €. Donc on commence à faire des appels, on commence à bien s'entendre et au bout de, je sais pas, on a peut-être fait 1 heure ou 1 heure et demie d'appels, ils nous disent bon, pour le paiement, vous nous donnez les 1 700 € quand on arrive. Et là je leur dis, les cocos, c'est 1 700 € pour les deux, 850 € par personne ou 1 700 € par personne. Et là, ils disent, bah non, j'étais très clair, c'était 1 700 € par personne. Ce qui est là est complètement abusé parce que 850 € encore, c'est cher. Faut se dire que c'est 40, 50 jours de traversée, donc on dépense pas 850 € de nourriture en faisant tout maison, notamment des pâtes. On paye pas autant. Donc je leur dis, mais attendez. 1 700 €, c'est quand même abusé, mes amis. Et il nous explique que, vu que c'est un beau bateau, Lagoon 46, c'est quand même un super beau bateau, vu que eux, ils ont des compétences en voile et que nous, on n'a aucune compétence en voile, eh ben, il faut qu'on paye plus cher pour payer, en fait, la formation qu'on aura à bord. Et ils nous font comprendre qu'en gros, on sera un poids pour eux. Que on est des équipiers qui montons sur le bateau, mais on n'allait pas être utile pour eux. C'est eux qui feraient l'écart. En gros, nous, on serait là pour regarder, mais on va pas être utile. Ils nous disent clairement, on n'a pas besoin de vous pour faire la traversée. On vous prend, mais on n'a pas besoin de vous. Et là, je trouve ça un peu abusé, notamment parce que traverser l'Atlantique, en fait, c'est des vents arrière permanents, donc les alizés. Et quand on arrive du coup au Cap-Vert, et qu'on traverse l'Atlantique, c'est que des vents arrière. C'est pas des vents où il y a besoin de faire beaucoup de navigation. On ouvre les voiles, on se met au portant, comme on dit, et on fait le trajet. Donc je leur dis, les gars, c'est pas en faisant une traversée de l'Atlantique qu'on va apprendre à naviguer. C'est facile, la traversée de l'Atlantique. Surtout, il n'y a pas un seul bateau au milieu de l'Atlantique. Enfin, 1 700 €, je suis pas d'accord. Surtout que moi, je veux faire un tour du monde en stop. Donc, payer le transport, en plus, le premier transport de mon voyage, ça la fout mal. Ils ont pas du tout apprécié que je dise ça et ils m'ont juste pas répondu. Ils m'ont bloqué en quelque sorte. Ils voulaient plus entendre parler de moi. Et mon ami avec qui on cherchait ce bateau et avec qui on s'était dit on va se mettre ensemble pour ce bateau, lui il a décidé de payer les 1 700 € et donc ils ont recruté quelqu'un d'autre, un blond aux cheveux longs d'ailleurs comme moi. Ils ont recruté quelqu'un d'autre pour me remplacer et eux ils sont partis en janvier. Du coup. Moi, j'étais en Bretagne à ce moment-là et je décide d'aller à La Rochelle et j'arrive en novembre, du coup, à La Rochelle, j'arrive sur les pontons. Et là, c'est pas du tout la même ambiance parce que à La Rochelle, il y a des usines de fabrication de bateaux. Donc, c'est les usines Lagoon, Bali, Beneteau, Jeannot. En fait, tous les bateaux neufs qui sont construits, ils se retrouvent dans le port de La Rochelle. Et ils sont tous là à attendre d'être livrés partout dans le monde. Donc, par exemple, il y a des bateaux tout neufs qui sont livrés en Turquie. Il y a des bateaux tout neufs qui sont livrés, ça peut être à Maurice, ça peut être en Martinique, ça peut être de l'autre côté à Tahiti. Et ils se retrouvent tous à La Rochelle. Et parfois, donc ça, on appelle ça des convoyages. Et parfois, ils sont à la recherche de un ou deux équipiers en plus parce que eux, ils amènent leur bateau et ils ont des couchettes de dispo. Pour proposer à des gens comme moi de faire la cuisine, faire la vaisselle et faire ses quarts sur le bateau. Faire ses quarts, ça correspond à surveiller qu'il n'y a pas de bateau qui rentre en collision avec nous, surveiller que le vent soit constant, et si jamais il y a un problème de vent, un problème de voile, un problème de bateau, on réveille le capitaine qui, lui, est expérimenté et qui, lui, peut agir en conséquence. Donc, c'est pas nous qui faisons les manœuvres de notre plein gré, mais on est là au cas où, pendant que le capitaine peut dormir. Donc, ça c'est les convoyages. Et donc j'arrive à La Rochelle et là il y a plein de bateaux. Je passe une journée à La Rochelle, je rencontre un petit groupe de Croates, ils étaient tous là à attendre que les vents soient favorables pour partir, super sympa, ils m'ont dit ouais viens boire une bière et tout. Sauf que eux ils étaient pleins, leur cabine était complète. Je tombe sur d'autres bateaux de Tahiti Charter, eux aussi ils étaient complets. Enfin bref, plein de bateaux qui partaient dans ma direction et qui étaient très sympas. Donc je me dis super encourageant. Je pense qu'en quelques jours j'aurais trouvé. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a trouvé en quelques jours un bateau à La Rochelle. Sauf que en fait à ce moment-là, je réalise que je viens de passer 3 ans en Afrique entre Madagascar et Sénégal et que je suis pas trop rentré et qu'en fait j'ai envie de passer les fêtes avec ma famille pour profiter d'eux, profiter de voir tous mes amis et dire au revoir à tout le monde parce que je pars pour un tour du monde qui pourra durer 3-4 ans. Donc je me dis que ça sert à rien de faire les pontons maintenant parce que je suis pas prêt à partir, mon sac était pas prêt et je décide de repousser à début janvier le bateau. Je pensais pas que en arrivant à un ponton, je puisse partir le lendemain. Je pensais que ça prendrait plusieurs semaines, mais à La Rochelle, vu que c'est que des convoyages, c'est pas des bateaux qui partent dans 3-4 semaines et les skippers sont présents à bord du bateau comme le feraient des particuliers sur leur bateau, mais c'est des skippers qui arrivent et qui partent 2 jours après. Et donc c'était trop rapide pour moi. Donc je décide de repousser ma recherche de bateau. J'en profite pendant ce mois et demi, j'en profite pour monter en compétences en navigation. Et donc là, il y a Claire qui me propose, grâce au site La Bourse aux équipiers, qui me propose de partir un week-end autour de l'île de Ré. Et donc c'est ce qu'on fait, elle vient à La Rochelle, je viens à La Rochelle, on prend son bateau et on va passer 2 jours entiers autour de l'île de Ré. Et en fait, c'était génial comme expérience parce que déjà, ça m'a permis de voir que j'avais le mal de mer. Super. Et ça m'a permis d'apprendre, on était juste deux sur le bateau, ça m'a permis d'apprendre les bases de la navigation, comment tirer des bords, avoir un petit peu de vocabulaire, qu'est-ce que c'est le génois, le foc, la grand voile, savoir amarrer un bateau aussi. Et donc ça, je recommande à toute personne, si vous écoutez cet épisode, je pense que c'est essentiel, pas obligatoire, hein, mais essentiel de faire une ou deux petites sorties en mer comme je l'ai fait avec Claire, ou bien faire une formation avec les Glénans, ou bien moi j'avais aussi fait une formation avec Yaka Partir, qui est à La Rochelle, juste une petite journée, mais ça permet de donner un petit peu le vocabulaire et puis de voir commencer à être sur un bateau, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce que ça se passe bien. Je pense que c'est essentiel, déjà pour pas se faire de faux espoirs, parce que c'est possible d'avoir un mal de mer vraiment sévère, ce qui fait que la traversée de l'Atlantique n'est pas possible, et voir si on a envie de passer autant de temps sur un bateau. C'est pas grand chose de passer 2-3 jours, et je pense que ça apporte énormément, donc je recommande de faire ça. Quelques jours après, je tombe sur Franck qui propose de convoyer son bateau qui était à Arzal, donc à côté de Vannes, et de convoyer jusqu'à Saint-Nazaire. Encore une fois, là, on était deux, on avait des conditions pas terribles, et lui, il avait plus de grande voile, il avait renvé sa grande voile pour l'hiver, mais il y avait le génois, donc on a navigué. Et encore une fois, c'était une bonne expérience de naviguer sur un bateau, de dormir dans le bateau, de manger sur le bateau, et de voir comment ça va sur un bateau, quoi. Donc ça, super expérience aussi. Et donc après ces 2 week-ends à la suite, j'avais déjà une expérience pas solide, mais si on me mettait un bateau entre les mains, un voilier, j'étais capable de le diriger. Si j'avais un point, je pouvais barrer. S'il fallait changer de côté les voiles, je savais faire. Et mine de rien, je pense que c'est important quand même. C'est rassurant pour un capitaine de savoir que la personne en question est motivée, la personne a déjà fait des expériences. Et face aux concurrents à la concurrence de bateau stopper, je pense que en quelques jours, on se démarque très rapidement en ayant fait ces expériences. Ça montre déjà sa motivation et ça montre des connaissances. Si on arrive sur un bateau, on dit « Ah, c'est un super bateau. Ah, mais vous avez un génois et un foc. C'est bien ça. Et le spi, il est là et tout. » C'est du vocabulaire qui peut être utile et puis qui peut convaincre un capitaine. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande. Du coup, chou blanc sur toutes mes expériences avant. Et le 3 janvier, j'arrive à La Rochelle, donc après les fêtes. Mon sac prêt, j'avais dit au revoir à tout le monde, j'étais prêt à partir, si je trouvais un bateau, je partais le lendemain, il n'y avait aucun souci. Et c'est ce que je me disais. En arrivant un vendredi soir, je me disais, je vais trouver un bateau vendredi soir qui part ce week-end et ciao la France. Ça ne s'est pas passé comme ça. D'ailleurs, le 3 janvier, je suis tombé, en arrivant donc le vendredi soir, je suis tombé sur un duo de deux gars super sympas. Et on est arrivé le même jour, on s'est croisés en fait. Moi, j'avais une location sur un ponton de La Rochelle. Salut Anaïs. C'était un petit bateau qui était au mouillage, enfin qui était sur les pontons. Et j'avais une location, c'était un Airbnb, et j'ai dormi là-bas une semaine. Ça m'a coûté super cher, mais c'était très sympa. Au moins j'avais une carte pour accéder à tous les pontons du port, et j'avais une carte pour accéder aux douches, aux toilettes, ce qui fait que quand je faisais mes tours de ponton à La Rochelle, je pouvais aller aux toilettes, je pouvais prendre une douche, je pouvais passer sur les pontons. Et ça, c'était vraiment une bonne idée, je pense, de prendre un petit bateau à La Rochelle. Et donc c'est là que le bateau stop a commencé. J'ai fait une première semaine. Il y a deux pontons principaux au port de La Rochelle. Il y a le ponton à la capitainerie, donc c'est le ponton d'accueil en fait, c'est le ponton Fontaine Pajot. Et il y a un autre ponton, c'est le ponton Gasoil, où là il y a d'autres bateaux, il y a les Lagunes, il y a les Bali. Et en fait les deux sont juste à côté, mais séparés par le port entier. C'est-à-dire que d'un ponton à l'autre on se voit, mais au milieu il y a un gros passage pour que tout le port de La Rochelle puisse passer. Et donc pour rejoindre les deux, eh ben il faut faire tout le tour à pied, et ça prend bien 30 minutes à pied. Il est super grand, ce port. Alors heureusement il y a des vélos, ça m'a sauvé. J'ai dû mettre 40 € de vélo là-dedans, mais à pied c'était vraiment vraiment long. Et donc c'était comme ça pendant 2 semaines. Tous les jours, j'allais voir la capitainerie sur le ponton, et puis j'allais dire bonjour aux personnes de la manutention. Je leur demandais, ah, vous avez pas des idées de départ sur ce bateau? Voilà. J'avais fait un petit papier avec une description de moi, et puis mon numéro de téléphone et mon mail. Voilà. Si vous entendez parler, donnez ce papier au skipper et tout. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 semaines. La manutention, ça se voyait qu'on les faisait, on les embêtait. Ça se voyait que, en nous voyant arriver, moi je voyais, ils étaient là-haut. Bah voilà, encore quelqu'un qui vient m'embêter. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus sympas, qui s'arrêtaient, et puis on discutait, et puis ça mettait une bonne ambiance. Mais il y en avait d'autres, j'avais l'impression de vraiment les embêter. Et dès mon premier week-end, je tombe sur un bateau de Tahiti Yacht Charter, et il y avait quelqu'un dedans qui me dit, le skipper de ce bateau arrive dans 10 jours. Donc il me dit, j'espère que tu seras parti, mais ils arrivent dans 10 jours et potentiellement ils ont de la place, parce que l'un des bateaux, c'était un Samana 59. Donc c'est un bateau de 59 pieds, c'est un truc immense, c'est immense. Il y a 6 cabines doubles dedans, et il y avait 4 cabines prises par des équipiers et le capitaine. Et du coup, il restait 2 cabines dispo dans ce bateau. Et en fait, c'est devenu mon espoir absolu. C'est pendant 10 jours, je ne pensais qu'à ce bateau. Tous les jours, je passais devant et je me disais, oh là là, si jamais ce bateau me prend et tout. Et voilà, la semaine s'est passée, j'étais sur mon petit bateau et tout. Et là, il a commencé à faire froid. C'était là la vague de froid qu'il y a eu en France en janvier, là, 2024. Et donc, la deuxième semaine, j'ai décidé de quitter mon bateau et puis je vais dans un hostel. Parce que il faisait trop froid, ça devenait trop galère de se chauffer tout le temps, et puis dès que tu sors, t'es frigorifié. Donc je me suis mis à l'hostel pour continuer le bateau stop. Les 10 jours se sont passés, et là, il y a le capitaine de Tahiti, du bateau de Tahiti, les deux capitaines qui arrivent, et en une demi-seconde, il a réduit tous mes espoirs à néant. Je suis venu le voir, j'étais avec un autre bateau stopper qui s'appelait Odin. On est venu le voir et on lui dit bonjour, il paraît que vous partez au Panama, est-ce qu'on peut venir avec vous? Et direct, il nous a dit non, je prends plus d'équipier, on est complet, désolé, je veux pas vous faire de faux espoirs, nous on est complet, on prendra personne. Et c'était vraiment la douche froide, je regardais et j'étais là, ah ouais, mais quand même, c'est possible. Je savais pas quoi dire. On a négocié, on a dit oui, si vous voulez, on peut cuisiner pour vous, il y a pas de souci et tout. Et il était là, non, on est assez. Ça fait longtemps que c'est prêt. Et puis c'était très professionnel, parce que faut se dire que c'est des bateaux neufs qui sont livrés à des endroits à l'autre bout de la planète. Enfin, c'est quand même, il y a quand même un contrat derrière. Faut prendre soin du bateau, faut pas prendre n'importe qui. Si ça se passe mal, c'est le capitaine qui est responsable. Donc, je comprends sa décision à ce cher capitaine, mais moi j'étais vraiment dépité à ce moment-là, surtout que dans mes amis, tout le monde prenait des nouvelles de moi, elle me demandait comment ça se passe, et à ce moment-là, j'étais là, ça se passe mal, ça se passe mal. Vraiment, c'était compliqué, c'était le moment compliqué. Voilà, et ça s'est passé comme ça pendant 10 jours. Pour me changer les idées, j'ai entendu parler d'une association qui s'appelle le Voyage de Malika, et j'ai vu qu'ils étaient à La Rochelle. Leur bateau était à La Rochelle. Et j'aimais trop ce qu'ils font, en fait. Le Voyage de Malika, ils prennent des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de naviguer, ou d'autres qui ont l'habitude de naviguer, et ils font des petits sauts de puce. Donc c'est pas tous les ans, mais presque. Sauts de puce de La Rochelle, de Douarnenez. Ils remontent, Irlande, ensuite Écosse, ensuite Norvège. Et puis ski en Norvège, et puis après ils vont dans les fjords, et puis ils redescendent jusqu'en Suède, et puis ils redescendent. Et je trouvais ça trop chouette de proposer à des prix beaucoup moins chers que les prestations professionnelles. Et donc je les contacte, et puis je leur dis, ça vous dit, on fait un épisode de podcast sur votre parcours. Et super sympa, ils me disent oui, pas de souci. Et c'est comme ça que à peine 2 jours après, je me retrouve chez eux à aller. Donc j'amène une petite boisson pour qu'on boive et tout, et puis qu'on discute de, on boive un coup, et puis qu'on discute de notre épisode. Et en fait, je pensais juste passer 1 heure, et c'est des personnes, Fanny et Greg, tellement gentil, tellement adorable, qu'ils m'ont proposé de rester manger. Donc moi j'étais trop gêné parce que j'étais pas venu pour ça. J'avais ramené que une bière, je crois, et ou deux, et je pensais pas du tout rester. Moi je voulais juste discuter une petite demi-heure de l'épisode et puis revenir le lendemain pour l'épisode. Et au final on a passé la soirée entière et c'était juste génial de discuter avec des gens aussi sympas. Surtout moi, ça faisait 10 jours que j'étais un peu tout seul à rencontrer personne à part des gens qui me disent non, on veut pas te prendre et tout. Faut savoir qu'à La Rochelle il y avait 0 bateau stopper, à part les 2 personnes que j'ai rencontrées au début qui ont trouvé un bateau super rapidement, et la personne dont je parlais que j'ai rencontrée à la fin, donc au bout de 2 semaines je l'ai rencontrée, mais avant j'étais tout seul. Et donc le Voyage de Malika, super. Et en fait le lendemain on se retrouve pour enregistrer l'épisode. On enregistre l'épisode et là il me dit, mais attends, maintenant que j'y pense, moi j'ai un pote qui est le long des côtes portugaises et qui va aller jusqu'à l'île de Madère. Et du coup il appelle ce pote. Il dit, ouais, j'ai un petit jeune, il est motivé, est-ce que tu veux pas l'emmener avec toi à Madère et tout. Et pour moi c'était une aubaine de ouf parce que enfin le voyage commençait. Enfin, je pouvais commencer mon tour du monde en stop, et enfin, je pouvais arriver à un endroit où je puisse prendre un bateau et puis ensuite faire de la navigation. Donc, j'étais trop content de ça. Et le gars en question dit, il s'appelle Lely. Le gars le Lely en question, il était chaud et tout, et il me dit, bah vas-y, nous on est au Portugal dans 1 semaine, tu descends et puis ensuite on va à Madère. Et ça y est, le voyage pouvait commencer. Il y avait possibilité qu'il aille jusqu'aux Canaries, mais c'était pas sûr. Mais en tout cas, je pouvais aller jusqu'à Madère. Je pouvais commencer le stop. Je commence à contacter toutes les personnes qui étaient sur ma route pour leur dire, ouais, je viens dormir chez toi, on se voit et tout. Et puis ensuite, je passe par là, comme ça. Et j'étais à l'hostel. Du coup, c'était un jeudi soir. Je commence à faire mon sac. On va se coucher et tout, parce qu'il y avait des gens dans ma chambre qui étaient super sympas. Et le vendredi matin, je fais mon sac et je me prépare à partir. Et en me réveillant, j'allume mon téléphone et je reçois 3 messages de notamment Sarah et Benjamin et la dernière personne, je sais plus qui c'est, désolé, qui m'envoie un screenshot d'une annonce sur Facebook, d'une annonce sur le groupe La Bourse aux équipiers, d'un skipper qui cherche depuis La Rochelle des équipiers pour aller jusqu'aux Caraïbes. Avec un super bateau, un Bali 4.6. Moi, j'avais vu l'annonce, je crois que je l'avais vu la veille, et en fait, j'étais tellement dans mon truc, bon, je pars au Portugal et tout, que je m'en fichais de cette annonce. Et le fait qu'au réveil, il y ait 3 personnes qui m'aient envoyé cette annonce, je me suis dit, bon, je vais quand même tester, au cas où. Et là, je contacte le skipper, et je vois dans les messages que je l'avais déjà contacté pour une autre offre, apparemment, et il avait même pas reçu mon message. Donc je me dis, bon bah quitte à pas être lu, autant l'appeler. Je prends son nom, son prénom, direct sur son numéro, sur son site en ligne. Je l'appelle et je dis, ouais, c'est Béranger, je cherche un bateau pour traverser l'Atlantique, je suis à La Rochelle et je suis chaud. Et là il me dit, ouais Béranger, bah ouais, je t'ai écrit, bah super, on se voit dans 3 jours alors. Et en fait il m'avait pas écrit parce que j'avais pas, il avait même pas reçu mes messages à moi. Il m'avait pas écrit, donc j'étais étonné. Et je lui dis non, vous m'avez pas écrit et tout. Il me dit si si, je t'ai écrit et tout. Bon, on se voit dans 3 jours et c'est parfait. Et donc je rentre à Angers pour faire mes lessives et tout, préparer mon sac, dire une dernière fois au revoir à ma famille. Et j'avais toujours ce doute en fait. Je pensais que le jour où un capitaine me dirait oui, je serais super heureux et j'aurais plus aucun problème dans la vie. Sauf qu'en fait là j'avais des doutes. Je me disais mais attends, Béranger, il s'est peut-être trompé avec un Bernard ou avec un je ne sais quel prénom. Donc tant que je suis pas sur le bateau, faut pas que je me réjouisse quoi. Les 3 jours se sont écoulés et c'était bien moi qui l'avais contacté. Mais alors j'étais incapable de savoir comment il m'avait écrit, comment il avait vu mon annonce, comment quoi. Sauf que c'était bien moi qui l'avais écrit. Et on se rencontre et puis ça y est, j'étais sur le bateau et je faisais ma première nuit sur le bateau avec lequel j'allais traverser l'Atlantique. En conclusion de tout ça, est-ce que faire les pontons, ça a été utile parce que j'ai trouvé mon annonce finalement sur Facebook? Je pense que oui, parce que déjà, faire les pontons, ça m'a permis de trouver le bateau avec Claire, avec qui j'ai été naviguer à La Rochelle, parce que j'étais déjà sur les pontons quand j'ai trouvé Claire. Donc ça m'a donné une première expérience en navigation, d'une part. Et deuxièmement, quand le capitaine du bateau avec lequel j'ai traversé l'Atlantique est arrivé, il a vu que je connaissais absolument tout le monde au port. C'était trop marrant parce qu'on a passé 3 jours au port avant de partir. Et chaque fois qu'on croisait quelqu'un, la personne me disait « Alors, t'as trouvé? » J'étais là « Ouais, j'ai trouvé !» Et de loin, je disais bonjour à tout le monde et tout. Et dès que le capitaine qui connaissait pas trop La Rochelle avait une question, j'étais là « Ouais, il n'y a pas de souci, vas-y, c'est là-bas » et tout. Et je pense d'un côté, il était très rassuré de voir que je connaissais tout le monde, je connaissais les gens qui géraient l'électricité des bateaux, je connaissais les gens qui travaillaient chez des entreprises de convoyage, je connaissais tous les techniciens. Et je pense que c'est un petit côté rassurant de voir que ton équipier que tu viens de recruter connaît vraiment tout le monde et a réussi à se sociabiliser avec tout le port. Et ça met un peu plus en confiance qu'un équipier que tu connais pas, tu l'as rencontré sur Facebook et il arrive et il connaît rien du tout. En plus, j'avais du coup un peu de vocabulaire parce que j'avais traîné un petit peu avec les gens du port. Donc, en conclusion de tout ça, en plus, j'ai rencontré le couple du voyage de Malika. Donc, super expérience. Voilà, en conclusion de ça, je pense que faire les pontons, ça a quand même été une chouette expérience. En termes de saison, si j'avais voulu partir pas avec un gros bateau, parce que je vais en parler dans un prochain épisode où je raconte ma traversée, partir avec un gros bateau, c'était peut-être pas la situation la plus idéale pour apprendre la voile et puis pour être sur un vrai voilier quoi. Mais vu que je voulais faire les fêtes en famille, bah, c'était le meilleur compromis. J'espère que ça vous a aidé. Si cet épisode vous a aidé avec au moins une info, je veux bien que vous mettiez une étoile sur Spotify ou sur Apple Podcast. S'il y a eu deux ou plus infos utiles, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Je vais enregistrer très bientôt un épisode où je raconte la traversée de l'Atlantique que j'ai faite avec du coup ce fameux capitaine. Et mon petit Bali 4.6. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et sur Spotify pour suivre cet épisode. Je vous fais des bisous, merci pour tout et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.